20h30, c'est le moment de retrouver le magazine d'archéologie de France Culture, Carbone 14. Paris Saint-Lazare, Val de Reuil, me voici sous une pluie battante, en route vers Alizay, nouveau haut lieu de l'archéologie normande. Cyril Marcigny, directeur scientifique, m'attend à la gare dans la 4x4 terreuse du chantier de l'INRAP. Au volant Nono, Bruno Aubry, responsable de cette énorme opération sur les rives de la Seine. Il y a des jours sans fin, d'autres avec ou sans pluie. Il y a aussi ces jours maudits pour l'archéologie, où les chenilles des pelleteuses patinent dans les ornières, où le chantier est un océan de boue. C'est donc après une brève visite entre sablières et gravières, roseaux et bouleaux, que nous nous sommes réfugiés dans un bungalow. Mais pourquoi se rendre à Alizay ? Pour voir ce que l'on ne trouve pas ailleurs, une archéologie du fugace, de l'instant, de l'éphémère, à l'image de cette exceptionnelle découverte, des pas humains, vieux de 4000 ans, un bref instant, un moment rare pour les archéologues.
Cyril Marcigny, pourquoi le site d'Alizay est-il si riche ?
Alors, c'est un site particulier qui est situé en pleine confluence, c'est déjà ça qui fait sa richesse, et en plus c'est un site qui a focalisé des tas d'occupations. La plus récente qu'on a identifiée, c'est un fort qui a été construit pour freiner l'avancée des Vikings vers Paris, qu'on a retrouvé en partie, qui a été réoccupé ensuite par les Vikings. On n'a pas trouvé de vestiges vikings, mais voilà, c'est un site qui a focalisé pas mal de monde sur une période très longue.
C'est peut-être aussi parce qu'on est dans un système de confluence entre Seine et Eure.
Ouais, ce système de confluence qui est entre Seine, Eure et même Andelle, hein, a profité au lieu, hein. C'est un lieu qui est assez riche avec des recouvrements de limon. Donc voilà, c'est des lieux qui sont assez propices aux occupations humaines. Aussi propices, du coup, à une certaine conservation archéologique puisqu'on a un développé sédimentaire assez important. On a près de 5 mètres de stratis, 6 mètres par endroit, hein. Donc toujours sur cette période, hein, paléotique finale jusqu'au 9e de notre ère.
Donc on est dans une zone de confluence, mais aussi du coup on est dans une zone humide. On peut penser que les mobiliers, le matériel est très bien conservé.
Exactement, c'est tout l'intérêt de ce site. Le développé sédimentaire, le lieu propice à la conservation des vestiges par l'humidité, par les crues de la Seine, offre tout un panel de données archéologiques, hein, qui va de la conservation des pollens ou de certains insectes, hein, jusqu'aux conservations plus classiques de la céramique, du silex, en passant par le bois dans certains secteurs. Enfin, voilà, on a vraiment un potentiel archéologique très très fort et un état de conservation très très fort.
Vous auriez trouvé des scarabées de quelle époque ?
Sur la première tranche, on a trouvé des scarabées qui sont datés visiblement du Néolithique moyen 2. Donc on est autour de 4000 avant notre ère en gros. Cette année, on a des nouveaux lieux qu'on livrait de l'entomologie. On n'a pas encore calé ça dans le temps. Il y aura probablement encore du moins 4000, mais je pense qu'on aura aussi du moins 3005 jusqu'à moins 2000. Visiblement, on a de la stratie à ce niveau-là aussi. Donc on va pouvoir travailler sur l'évolution du scarabée.
Et ça apporte quoi l'étude des scarabées ? Ça renseigne sur le milieu, sur le climat ?
Alors là, on a deux aspects qui peuvent être traités, du naturel et de l'anthropique. Avec le naturel, on aura quelques informations. C'est sûrement là qu'on aura le plus d'informations d'ailleurs. Voilà, on va pouvoir être renseigné sur le milieu, l'évolution du milieu au fil du temps. Ensuite, ces petites bébêtes, elles ont dû être influencées par les occupations humaines qui sont situées juste à côté, ou les cultures. Voilà, on a des animaux spécifiques, hein, qui se mettent au niveau des céréales, par exemple. Voilà, c'est un exemple. Donc voilà, on va travailler aussi sur le spatial et on va peut-être voir justement la variation qu'il peut y avoir entre un milieu entomologique purement naturel et un milieu entomologique qui subit l'influence anthropique.
Alors, au-delà du Charançon et de l'archéologie du Charançon, on va parler aussi un peu donc de ces Vikings. Vous auriez trouvé une sorte de pont fortifié sur la Seine ?
Alors nous, on n'a pas trouvé le pont fortifié. On a le fort qui est situé juste avant le pont. On sait par les sources écrites, hein, que voilà, on a un pont fortifié qui est construit au 9e siècle, hein, qui barre la Seine au niveau de Pont de l'Arche. Et nous, on a un des verrous de ce pont qui est un fort qui a commencé à être construit, qui a été abandonné et qui a été récupéré ensuite par les Vikings.
Bruno Aubry, vous avez fouillé uniquement ce fort ou vous avez fouillé tous les alentours ?
nous sommes intervenus sur les marges du fort proprement dit, parce que pour le fort pour lui-même, on a eu une petite levée de terre et puis un espace genre basse-cour, on va dire, au sens large du terme. Mais surtout, l'intérêt d'être intervenu sur une telle surface, sur les 12 hectares de la première tranche, ça nous a permis vraiment d'appréhender des éléments quotidiens, genre des petits fours domestiques, des zones de rejet, de préparation de matériel archéologique, qui sont en lien direct avec ces occupations du fort proprement dit, quoi. Mais vraiment dans un périmètre relativement lâche autour.
Cyril Marcini, vous avez trouvé des traces de Vikings ? Est-ce qu'ils sont passés d'ailleurs ?
Ils sont passés d'après les sources écrites. On n'en a aucune trace au niveau archéologique, comme bien souvent sur les sites qualifiés de Vikings sur le territoire national. Voilà, c'est des gens qui devaient se déplacer avec très peu de matériel. Le matériel qui les accompagnait, ils n'étaient pas censés le perdre continuellement. Donc on a très peu de vestiges. Les vestiges du 9e siècle qu'on retrouve sur le site sont en lien avec les choses qu'on trouve d'habitude dans les autres sites avoisinants. Et il y a même très très peu de matériel pour cette phase-là d'une manière générale. Voilà. On a plutôt du matériel qui apparaît après maintenant autour du 13e, 14e, 15e siècle. Là, il y a beaucoup d'activités sur le site. Mais le passage 9e, 10e, il est, voilà. Il y a une grosse structure. Hein. Il y a des éléments fossoyés qui sont énormes. On a une fortification qui fait 22 mètres de large, avec des fossés qui descendent à 4 mètres de profondeur. Donc voilà. Il y a quand même des choses lourdes, mais peu de matériel.
Revenons aux temps les plus anciens, vers 10 000 ans avant notre ère, le paléolithique final. Les hommes s'installent là. Pourquoi ? Quels sont les avantages de ce lieu ?
Alors pour ce qui est de la période la plus ancienne, ce qu'on a mis en évidence durant la première tranche des travaux, c'est une hutte, sûrement une hutte. Enfin, la répartition spatiale du mobilier nous dessine l'emplacement de quelque chose de circulaire, très bien circonscrit. Et à l'intérieur, on a un matériel lithique, une enclume, quelques objets macrolithiques pour casser les os et de la faune qui appartient uniquement à de l'auroch et à plusieurs auroch visiblement d'après les études faites par Céline Bémy. Donc on a probablement une petite halte de chasse, pour reprendre les termes des personnes qui ont travaillé sur cette période-là, une halte de chasse où on a été chasser l'auroch, on a ramené des auroch, on les a débités sur place sur une période qui peut être très très courte, voilà, quelque chose de ponctuel. Et cet aspect de assez ténu, de choses ponctuelles à réaliser, c'est quelque chose qui va nous accompagner sur toute la période du Néolithique et même le début de l'âge du bronze, puisqu'on a, on a un site où on revient toujours très ponctuellement, de nombreuses fois, mais très ponctuellement.
Donc vous vous intéressez aussi aux absences de présence d'hommes sur le terrain ?
On s'y intéresse énormément. Les moments de creux sont les moments les plus intéressants, mais ils sont quand même très très intéressants, puisque lorsqu'on essaye de corréler en examen un peu macro, hein, les absences de sites avec les phases climatiques telles qu'on les connaît, par exemple avec le radiocarbone, hein, on se rend compte que dès qu'on va avoir une période très défavorable, on aura peu d'occupation sur le site, ou une fréquentation très ponctuelle avec quelques pointes de flèche, voilà, ou des sites qui n'ont pas une très grande importance au sol. Donc voilà, ces rythmes, c'est vraiment ce qui forge l'histoire du site, puisque ce qui compte pour nous, c'est de restituer l'histoire de ce lieu, quoi.
Et c'est quoi exactement ces périodes défavorables à l'homme ?
Alors, la plus marquante sur le site, ça reste celle de la transition entre le néo-moyen et le néo-final, où là, vraiment, il y a une absence d'occupation sur le site. Mais on va retrouver la même chose des périodes plus récentes. Par exemple, dès qu'on va dépasser le bronze final, on n'aura plus d'occupation. Un peu avant, on n'aura pas d'occupation du bronze moyen 2, par exemple, de la fin du bronze moyen 2. Enfin, tout ça, c'est des choses qu'on connaît à travers les données des lacs, par exemple. On sait que c'est des ruptures, et on les a sur les vallées de Seine.
Ça donne quoi en date ?
Voilà, on a un trou qui est assez flagrant autour de 3005, un autre trou après 1500, on en a un autre vers moins 800. Enfin, voilà, ça c'est des périodes qui sont assez clés sur l'occupation, et ces périodes correspondent après à des apports sédimentaires assez importants. La péjoration climatique qu'on connaît très très bien autour de moins 800, hein, celle du passage suboréal subatlantique, eh ben, elle va se solder par l'apport de sédiments sur presque un mètre de hauteur par la suite. Mais on a des périodes aussi plus récentes, hein, qui sont marquées. Le petit âge glaciaire, donc on est en gros au 14e, est marqué sur le site aussi. Voilà, on a un apport sédimentaire qui date de cette époque-là, avec un peu de matériel emballé, il y a eu des transports de matériaux, mais pas d'occupation humaine.
À l'opposé, quel est l'impact de l'homme sur l'environnement ?
Alors sur le site, c'est le point qui échappe encore un petit peu. Parce qu'on a des occupations qui sont assez ponctuelles, pour la plupart, la très très grande majorité, et l'impact de l'homme sur le milieu se fait à peine sentir. Même dans les données polyniques, on a l'impression qu'on ne cultive pas de champ dans le secteur. Alors cette vision est sûrement un petit peu biaisée, hein. C'est à affiner, mais on a l'impression qu'il y a très peu d'impact pour cette période-là. Mais dès qu'on va passer autour de moins 2000, par exemple, on aura des choses qui sont un peu plus lourdes sur le site, et on va voir qu'on commence à voir quelques éléments, hein, qui montrent qu'il y a une influence sur le milieu. Et actuellement, ce qu'on aimerait développer sur le site, c'est justement tout ce qui est pollution, en lien justement avec ces occupations un peu restantes du début de l'âge du bronze ou de la fin du calcolithique.
Vous voyez donc l'anthropocène, l'influence de l'homme sur le climat, sur votre site ? Non, très peu.
Non, très peu. C'est des choses qu'on n'arrivera pas à toucher sur un site. On est sur une échelle qui est beaucoup trop réduite. Ça participera à un plus large système par la suite, mais pour l'instant, c'est une toute petite pierre qui n'apporte pas d'éléments aussi forts.
Le néolithique, les premiers agriculteurs, vous en avez les traces, bien sûr.
Sur le site, on a du néo-ancien, mais toujours pareil, on n'a pas de structure lourde sur le site. Il y a des gens du Villeneuve-Saint-Germain qui sont venus, donc une culture de la fin du néolithique ancien. On est autour de 4008. Il y a peut-être même des gens du Rubanais qui sont venus sur le site. Donc juste avant, on est autour de moins 5000. On a des bracelets en calcaire, par exemple, ce genre de choses. Mais on n'aura pas de bâtiment. Enfin, pour l'instant, on n'en a pas trouvé. On a du matériel. Les gens sont venus. Ils ont cassé quelques vases. Ils ont taillé le silex. Et ça, c'est un élément fort du site. C'est vraiment ce lien avec l'environnement. Si on prend de façon diachronique les types de céramiques rencontrées, c'est quelque chose qu'étudie ici Lorraine Manceau, on se rend compte que les formes, qu'elles soient du néolithique ancien jusqu'au néolithique moyen 2, c'est essentiellement des formes fermées de type bouteille, voilà, avec des variations typologiques forcément, mais on trouve pas mal de bouteilles cassées en place, des objets abandonnés, et qui sont souvent en lien avec les zones humides. Voilà, on peut très bien imaginer, si on veut raconter une histoire, des gens aller puiser de l'eau, casser leur vase, l'abandonner sur place, et voilà quoi. Et c'est des choses qui ont l'air de marcher sur le site.
Vous m'avez montré le plan de ces 20 hectares fouillés. Vous avez quand même des maisons.
On a quelques maisons. Pour 20 hectares, on n'a pas beaucoup de maisons. On a des bâtiments du néolithique final. On en a peut-être pour les périodes plus anciennes, mais on n'est pas encore sûr de notre coût à 100%. Et on a des constructions, par contre, à partir de moins 2000. Voilà, à la fin de la période campaniforme, quand on est dans l'âge du bronze, là, on a vraiment une occupation plus lourde. En fait, il faut imaginer le site comme étant quelque chose... Quand on regarde les bords de Seine actuellement, on a l'impression que quelque chose de très, très plat. En fait, c'est pas si plat que ça. On a un paysage qui est un petit peu vallonné, avec des buttes, ce qu'on appelle des montilles, des dépressions qui sont parfois en eau, ce sont des talvegs. Et au fil du temps, voilà, les gens se sont installés sur les parties les plus hautes, les montilles. Donc quand on est sur une montille, on a des occupations lourdes. Quand on est le long des talvegs, on a des occupations plus ponctuelles. Enfin, voilà, c'est vraiment toujours ce lien avec le milieu qui est très fort ici.
Qu'est-ce que l'on savait sur le néolithique, donc ces premiers agriculteurs en Normandie ?
On connaît à la fois beaucoup de choses et peu de choses, comme d'habitude en archéologie. Maintenant, on a une bonne idée des différentes vagues du néolithique ancien qui sont arrivées en Normandie. On sait qu'on a une vague qui est du Rubanais très finale. On a une très grosse vague Villeneuve-Saint-Germain, donc entre 5000 et 4008. La vague de néolithisation se répand vraiment sur toute la Normandie, jusque dans les confins de la Normandie, hein, dans le Cotentin, voire même vers les îles anglo-normandes, si on considère qu'elles sont normandes. Mais il y a plein de choses qui nous échappent encore. Les modalités de construction des bâtiments sont encore difficiles à appréhender, même si on commence à avoir beaucoup de en particulier sur la partie heure. On a beaucoup de vestiges qui permettent d'approcher la culture matérielle, mais il y a encore tout un pan de ces territoires qui nous échappent. Ici, on apporte une pierre, puisqu'en fait, en lien avec ces constructions qui se développent plutôt sur les plateaux, on va avoir un complément par rapport à la chaîne des occupations et des occupations qui sont en lien avec des occupations plus dures en bordure de Seine.
France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier.
En tout cas, j'ai vu sur un chantier, il n'y a pas si longtemps, qu'on avait trouvé des sortes d'énormes menhirs en bois, une découverte tout à fait exceptionnelle.
Oui, on est sur une phase qui est un peu plus récente. On est au néolithique moyen 1, c'est une fouille qu'a fait Emmanuel Guéquier il y a maintenant 2 ans. Donc sur un très vaste espace, hein, on est sur 24 hectares de sites funéraires, avec de très longs monuments, hein, ce qu'on appelle des monuments type passy, donc des très très longs tertres, hein, qui peuvent faire jusqu'à plusieurs centaines de mètres de long. Et ben, en lien avec ces monuments, on a un carnac en bois qui se développe, avec des alignements de très 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 gros pieux, des arbres quasiment, puisqu'en fait on a, lors de l'examen des coupes stratigraphiques, des emplacements de ces poteaux, on s'est rendu compte qu'on avait affaire à des arbres qui avaient été replantés, on a des traces de racines, donc c'est des arbres qui sont débités à la culée noire, c'est-à-dire qu'on va creuser au pied de l'arbre, on va couper les racines de manière à avoir un fût le plus long possible, et ces arbres ont été remis en situation, sûrement sans tête, hein, donc des très 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 longues tiges qui occupaient l'espace.
Et qui était du plus petit au plus grand, c'est bien ça, pour créer une sorte de perspective ?
Oui, si on se fie aux fosses d'implantation de ces fosses, il y a un gradient qui était très très net. Même si les diamètres étaient toujours très très grands, on avait des petites profondeurs à un bout, et plus on partait vers le lointain, on arrivait à des trous très très profonds. Donc on peut imaginer quelque chose en escalier, de manière à faire une perspective. C'était des vrais artistes, ces néos.
On est sur une sorte de site culturel.
Pour Fleury-sur-Orne, oui, on est vraiment sur un site culturel qui est aménagé que pour ça. Il n'y a pas d'occupation humaine. C'est du funéraire, ces fameux alignements de pieux, hein, ces menhirs à la normande. L'intérêt de ce site, c'est que même c'est un site qui va rester dans le funéraire pendant très très longtemps. On n'aura pas d'autre occupation humaine par la suite. Même pour la Jubronde, on aura à nouveau du funéraire. C'est une sorte de paysage funéraire tel qu'on peut l'appréhender des fois lorsqu'on lit des articles en archéologie sur d'autres secteurs, en Angleterre ou en Allemagne. Des paysages funéraires qui sont figés, et ça sur des milliers d'années.
Et ça, ces structures en bois, on en aurait par exemple en Angleterre? D'ailleurs, vous les avez publiées?
Alors, celles de Fleury ont été partiellement publiées par Emmanuel. On en connaît aussi en Angleterre. C'est en lien avec d'autres types de monuments, ce qu'on appelle des cursus, hein, qui sont aussi des très très longs monuments délimités par des fossés. On en connaît aussi dans la région centre, pas en lien avec du funéraire strictement, mais probablement, voilà, on se doute qu'on est sur quand même un site très particulier où on a aussi ces alignements de pieux qui couvrent plusieurs centaines de mètres.
Alors venons-en à notre sujet. Vous auriez tous les deux trouvé des traces de pas humains?
Ouais, c'est une spécialité normande aussi, puisqu'on en connaît pour le paléolithique. Mais ici, on a des traces de pas humains et aussi des traces d'animaux, hein, qui datent, on est entre moins 2000 et moins 1900, d'après les datations qu'on peut avoir pour l'instant et avec la stratigraphie. Hein. Donc un long cheminement ponctué de dizaines et dizaines de traces de pas. Je pense qu'on a même une centaine de traces de pas qui dessinent un bandeau sur plusieurs dizaines de mètres. Hein, et le tout est recouvert de sable.
Bruno Aubry, ça se fouille comment, des pas humains?
Bon, on les a fouillés à l'outil de dentiste, en vidant simplement le sable qui a fossilisé ces dépressions. Donc c'est l'outil de dentiste et puis l'aspirateur. En fait, ces pas sont fossilisés dans des argiles, dans une vase, on va dire, scellés par elles-mêmes par du sable, et en enlevant simplement le sable, on se pose directement sur les bords de la structure et les pas apparaissent par magie quelque part. Donc ça nous permet ainsi de déterminer les différentes espèces d'animaux ou humaines qui ont pu passer par là.
Ils sont pieds nus ou ils sont en chaussures?
Ah, ils sont pieds nus. Ils sont pieds nus. On n'a pas de traces de chaussures, on a de gros orteils, on a les talons, etc. qui sont là, et les êtres humains étaient bien pieds nus.
Mais ils devaient avoir des chaussures, donc ils les ont enlevés.
Peut-être qu'ils les ont enlevés. Peut-être qu'ils les ont enlevés, on ne sait pas. Mais en tout cas, les empreintes que nous avons pour l'instant sont toutes pieds nus.
Hommes, femmes, enfants?
C'est un peu difficile à dire. C'est des êtres humains. Voilà. Pour l'instant, c'est plutôt de l'adulte.
Ouais. Et puis, il n'y a pas que des humains, il y a des animaux.
Il y a des animaux, en effet, on a tout un cheptel d'animaux sauvages et également d'élevage. Dans les animaux sauvages, nous avons une série de cervidés, on a des équidés, il y a également des suidés, donc toute la famille des cochons. Il y a du bovidé, donc là qui nous rapprocherait plutôt de l'élevage, on va dire, même pour certains types de caprinés. Mais oui, on a toute une série d'animaux conservés au niveau des empreintes.
Salut Martini. Quel scénario peut-on créer autour de ces pas humains?
Alors, on a été bien ennuyés avec ces pas humains et ces pas d'animaux pendant assez longtemps. En fait, le fameux sable dont on évoque depuis tout à l'heure, c'est quelque chose d'important. On a vraiment un recouvrement très rapide de sable qui vient tout napper, ce qui a facilité la fouille pour nous. Sans ce sable, on aurait eu du mal à découvrir ces traces de pas. Donc, on a élaboré plusieurs scénarios avec la géomorphologue qui travaille avec nous, qui est Christine Chausset. Et récemment, après la visite de Christophe Petit, hein, qui est un autre géomorphologue, hein, de l'Université de Paris 1, on s'est rendu compte que il y avait d'autres sites de comparaison, en particulier un site de Lorraine qui a été fouillé par Vincent Blouet il y a quelques années. Et le scénario que propose Christophe Petit, sur le site de Vincent Blouet, pourrait être similaire ici. En tout cas, il nous semble assez pertinent. Il voit ça comme un événement ponctuel, très rapide. En gros, pour faire simple, une remontée de la Seine liée à une crue exceptionnelle ou un événement lié à un mascaret un peu fort. Enfin, voilà, une remontée de la Seine. Et les gens de ce début d'âge du bronze vont descendre, chercher une partie de leur cheptel, le remonter en suivant une piste, hein, et remonter tous les animaux comme ça, suivis par d'autres après animaux sauvages par la suite. Cette interprétation, elle est renforcée par d'autres éléments. On a des objets qui ont été perdus par ces gens. On retrouve des balles de fronde, par exemple. Il y a un autre événement aussi. On a un chien qui, semble-t-il, a été complètement écrasé par le passage de ces animaux. Donc, on peut imaginer un chien qui accompagnait ces hommes, qui, pris dans le cheminement des bovidés, s'est fait écraser.
Des pas humains, on en a d'autres. Et on en a même encore des plus vieux en Normandie, puisque Dominique Liquet a découvert sur le site du Rosel beaucoup de pas humains.
Oui, c'est même... encore plus riche d'enseignements. Voilà, c'est très très rare. Et effectivement, sur la fouille du Pou au Rosel, Dominique Liquet fouille depuis maintenant beaucoup d'années. Plusieurs ensembles de traces de pas humains principalement, hein, piégés dans des cordons dunaires, hein, des traces de pas néandertaliens. Voilà, donc quelque chose d'assez fort. On connaissait très 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 peu d'empreintes de pas de cette époque-là à l'échelle de l'Europe. Et Dominique est en train d'exploser tous les corpus puisqu'on est sur des centaines de traces, hein, très intéressantes puisque ça vient renforcer la lecture qu'on a de l'emprise spatiale de ces occupations. On a les vestiges qui nous permettent de raconter des choses, des déplacements de vestiges qui permettent à l'archéologue tant bien de mal d'évoquer le déplacement des hommes, mais là on a les traces de pas. Donc on sait comment les gens sont déplacés, on sait qu'il y a des adultes, on sait qu'il y a des enfants, on sait que les enfants sont avec les adultes. On est au début de quelque chose qui est exceptionnel.
Et puis il a même trouvé des traces de mains, voire des traces de genoux.
Oui, il a des traces de mains, des traces de genoux, il attend les traces de fesses.
Est-ce que l'on pourrait faire une sorte d'archéologie du fugace au travers de votre histoire ou celle du chantier du Rosel? Est-ce qu'en cherchant bien, on trouve des événements comme ça extrêmement ponctuels?
Sur certains sites, oui, on peut arriver à faire cette archéologie du fugace qui peut paraître un peu futile comme ça parce qu'elle ne va pas nous permettre de renseigner des grands traits culturels de l'humanité. Enfin voilà, on ne va pas aller très très loin, mais en fait c'est assez riche d'enseignements. On approche sur ces sites-là comment on vivait précisément sur un site, donc des petits éléments ténus mais qui, en se multipliant sur plusieurs sites, vont permettre d'ouvrir vers des nouveaux champs d'investigation différents mais très pertinents.
Vous avez une sorte d'arbre foudroyé aussi.
Oui, c'est un autre événement très ponctuel. On a un arbre, on a des morceaux d'arbres dans un secteur de la fouille, certains enterrés, d'autres encore en position. Suite à la visite de Yannick Le Digol, qui travaille en dendrochronologie, hein, et en dendrologie, hein, on a bien mis en évidence que c'était un arbre qui avait été foudroyé, donc qui a éclaté. C'est un très très gros chêne, hein, sûrement pluricentenaire, hein, qui a explosé. Les branches, la tête de l'arbre s'est enfoncée dans le sol, donc on avait des branches, hein, d'un très fort diamètre. On est sur du 40-30 cm de diamètre, peut-être même plus, hein, enfoncées dans le sol jusqu'à 1,80 m de profondeur, hein. D'ailleurs, au passage, ça renvoie sur certains trous de poteaux, hein, qui pourraient être juste des branches enfoncées sur d'autres sites. Et ces branches enfoncées, ces bouts d'arbres explosés par la foudre, eh ben, ont vécu par la suite. Les néolithiques se sont emparés du lieu, ont débité les bouts de branches qui dépassaient du sol, les ont récupérés pour les foyers qu'on trouve autour, hein, où en anthracologie on a du chêne justement. Certains morceaux les gênaient, les grands bouts de fûts d'arbres frappés par la foudre devaient les gêner. Ils les ont enterrés sur place, donc on les retrouve enterrés à différents emplacements. Voilà, il y a eu une gestion, mais pareil, on est sur quelque chose qui a dû se passer en quelques jours, mais des choses qu'on n'a pas d'habitude.
Au même titre que certaines branches qui dépassaient du sol ont des traces de haches et de débitage directement émergeant du sol archéologique, quoi.
Bruno Aubry, est-ce que vous avez des passages de gué, des sortes de chemins de planches à l'image de ce que l'on trouve par exemple en Angleterre ou en Irlande?
Alors, sur le passage de certaines zones humides ou de chenaux, paléochenaux, sur le site, il y a des aménagements avec des pieux enfoncés dans le sol, bien sûr, qui nous font penser à ce genre de passage. Après, reste encore le problème de validation ou de ces poteaux. Comme le disait Cyril à l'instant, on n'est pas à l'abri d'avoir des pieux, des têtes d'arbres qui s'enfoncent dans le sol. Et puis, miraculeusement, ça nous dessine des plans de bâtiments ou des plans d'aménagement, etc. Mais le phénomène de passage à gué, on peut le reconnaître à peu près à trois endroits bien distincts sur le terrain. On n'a pas les planches, on n'a pas la matière organique de conserver, mais au moins, on a des choses qui se passent sur le franchissement de certaines îles, certaines mantilles au niveau des paléochenaux. Ça, c'est sûr.
Cyril Marcini, sur un de ces paléochenaux, un de ces passages, vous seriez tombé aussi sur un événement extrêmement fugace, mais aussi extrêmement violent?
Sur deux passages. On a deux passages à gué, donc un qui est bien daté, un qui est aménagé en pierre et qui date du néolithique final, un deuxième qui n'est pas daté. Mais sur ces deux passages à gué qui sont des éléments qui sont restés un peu présents dans le paysage, hein, ces passages à gué étaient toujours utilisés au cours de l'âge du bronze, dans la même tranche chronologique, hein, que notre petit événement avec les bovidés qui ont remonté la crue de la Seine. Hein, on est toujours autour de moins 2000. Hein, sur ces deux passages à gué, on a trouvé une quantité importante de balles de fronde. On est sur près de 500 balles de fronde, un peu plus de 500 balles de fronde, hein, qui ont été étudiées par Éric Galloin sur les deux passages à gué et ciblées principalement sur les passages à gué. On a fouillé tous les paléochenaux, on n'a pas de balles de fronde éparses. On a un véritable bombardement de balles de fronde sur ces deux endroits probablement deux actes violents en lien avec ces passages à gué.
Ces balles de fonte, vous les avez à côté, on peut les regarder ?
Alors voilà une balle de fronde telle qu'elle se présente ici. Donc ce sont des objets en craie, entièrement façonnés au silex ou avec des percuteurs, hein, qui forment des sortes de petits ballons de rugby, hein, de 3 à 5 cm de longueur, parfois effilés, hein, aux deux côtés. C'est un modèle de balle de fronde qu'on pourrait qualifier de balles de fronde de guerre. En tout cas, ceux qui travaillent sur les balles de fronde, hein, ont tendance à penser que ces balles ovoïdes, hein, sont plutôt destinées à des combats. On a quelques balles de fronde plus rondes, hein, qui sont des balles de fronde qu'on connaît plutôt pour la chasse. En tout cas, de toute façon, pour nous, c'est difficile d'aller très loin dans l'interprétation à partir des objets eux-mêmes, parce qu'on n'en connaît pas. Voilà, on n'a pas ce type d'objet, ces types de balles de fronde façonnées pour la jubronze, pour l'instant, en France. On a des fois des blocs de grès qui paraissent ronds, des choses comme ça, qui ont sûrement été utilisés en balles de fronde. Hein, mais des objets façonnés exprès et en très grande quantité comme ici, on n'en connaît pas pour l'instant, quoi.
Ça rappelle tout à fait les balles de fronde romaines.
C'est exactement ça, sauf qu'elles sont beaucoup plus grandes, hein, puisque là on est sur 5 cm, une balle de fronde romaine en plomb, ça fait 1 cm, 5-2 cm de haut. Quand on soupèse une balle de fronde d'Alizé, on se rend compte que c'est assez léger. Et Eric, lors de son analyse, s'est dit que ça valait peut-être le coup de les mouiller pour voir ce que ça donnait. Et lorsqu'on les mouille, on a des poids qui remontent considérablement et on se retrouve avec des balles de fronde qui ont un poids entre 70, 80 grammes. Et on retrouve le poids des balles de fronde romaines qui sont autour de 80 grammes. Donc voilà, c'est des objets qui sont efficaces pour de la guerre.
Donc vers 2000 avant notre ère, on aurait eu un événement, on peut le dire, assez violent, une sorte de guerre ou un conflit à Alizay. Est-ce que vous avez retrouvé des restes humains ?
Alors, parler de guerre, c'est toujours un peu fort. En tout cas, c'est sûr qu'il y a eu, une petite bagarre. Voilà. On n'est pas sur les sites allemands, par exemple, où il y a vraiment des scènes de combat. Hein. Là, on est sur une petite rixe en vallée de Seine. Et il y a eu des violences interpersonnelles de façon certaine, puisque à côté, dans les mêmes niveaux, on se retrouve avec des bouts de calotte crânienne, quelques fémurs, des os fragmentés. Donc il y a des corps humains qui devaient être situés dans le même secteur et qui sont sur le même horizon sédimentaire.
Bruno Aubry, je sais que vous avez aussi du matériel exotique. Vous avez trouvé des silex qui viennent quelquefois de très loin ?
Tout à fait. On a du mobilier qui vient de la région du Grand Pressigny, par exemple. Qui est sous forme finie, donc des fragments de poignards. Nous avons également des lames en silex du cinglé, donc qui viennent plutôt de la région de Basse-Normandie. Et également des haches en roche tenace, de la dolérite, la métadolérite, et puis également de la fibrolite, qui serait plutôt des régions du massif armoricain. On a vraiment des éléments qui viennent, qui couvrent un petit peu tout le sud-ouest de la France, quoi.
Donc des vrais échanges durant le néolithique ou peut-être un petit peu plus tard. Vient de paraître dans les comptes rendus de l'Académie des sciences des États-Unis un sujet tout à fait révolutionnaire. En Bavière, dans la vallée de l'Esch, nous avons la preuve désormais qu'il y aurait eu de l'exogamie.
Oui, donc on est pour les mêmes dates à peu près qu'à Alizay, parce qu'on est aussi sur du fin campaniforme, même néolithique final pour les résultats en Allemagne. Donc pour ces phases-là, il y a un grand programme actuellement, il y a plusieurs grands programmes européens sur l'ADN, et les premiers résultats qui ont été publiés montrent qu'on a le phénomène qu'on connaît pour les périodes plus anciennes de la jubronde, de la patrilocalité, hein, donc des échanges de femmes. Et ces femmes ont le même statut que les autres, il n'y a pas de différence, hein, au sein du groupe humain, mais il y a des échanges qui se font à plus ou moins longue distance, hein, à travers des mariages, des alliances, hein. C'est ce qu'il y a de plus simple, hein, à cette époque-là. Créer des alliances, c'est créer un lien indéfectible avec un autre groupe humain, hein. Et les femmes ont probablement participé à ces réseaux.
C'est pour vous une découverte très importante ?
Oui, elle est importante, elle est intéressante, surtout on est au début, hein, donc il faut attendre qu'on ait d'autres échantillons pour voir si vraiment ça se pérennise à l'ensemble d'autres groupes. Hein. On est à une période où il y a quand même un groupe culturel qu'on a du mal à définir, qu'on définit à travers surtout un mobilier céramique qui va inonder l'Europe à grande vitesse, le fameux campaniforme. Hein. Sur quelques siècles, on va retrouver des vases campaniformes un peu partout. Si on se fie aux données ethnologiques, c'est souvent les femmes qui fabriquent la céramique. Pourquoi pas imaginer une diffusion de ce style céramique à travers justement ces échanges de femmes.
Carbone 14 était réalisé par Vanessa Nadjar, à la technique Olivier Dupré et avec la collaboration d'Anne-Catherine Lochard. Vous pouvez écouter ou podcaster Carbone 14 sur le site franceculture.fr ou retrouver plus de 300 archives sur le site inrap.fr. La semaine prochaine, Carbone 14 parlera de préhistoire avec le fameux archéologue Marcel Hoth.